Rebonsoir pour certains, bonsoir. Donc on va continuer ce groupe de travail avec une présentation de l'ADMO Normandie, de qui on est, quelles sont nos missions. Donc déjà on voulait remercier la métropole de nous avoir invités pour présenter un petit peu notre structure, notre activité et en particulier ce que l'on fait lors d'événements d'incidents, d'accidents industriels. Donc c'est une intervention qu'on va faire à deux voix, donc avec Véronique Delmas, directrice d'ADMO Normandie. Donc moi-même, je me présente Jérôme Cortinovis, je suis ingénieur innovation et partenariat au sein d'ADMO et j'ai aussi une autre casquette qui est ce qu'on appelle référent partenaire. Donc je m'occupe des relations avec l'ensemble des partenaires sur le territoire de la Seine-Maritime, donc avec la métropole Rouen-Normandie. Donc dans notre intervention, on a prévu d'aborder deux points. Déjà, d'une part, comment nous on fait notre travail au quotidien au sein d'ADMO Normandie, en termes de surveillance de la qualité de l'air et des missions qui sont afférentes à notre travail. Puis après, je laisserai la parole à Madame Delmas sur notre rôle lors de ces événements un peu particuliers, donc d'incidents ou d'accidents industriels. Donc pour contextualiser par rapport à ces deux sujets-là qu'on va aborder, on voulait un peu repositionner le rôle et les missions d'ADMO Normandie vis-à-vis de ces sujets. Et donc déjà vous rappeler qu'on a une partie de nos missions qui sont réglementaires, qui sont définies dans un contexte national, dans le cadre d'un arrêté que vous avez daté ici. Et donc dans ces missions, on a quelques missions principales qui sont la surveillance de la pollution chronique, donc ce que vous respirez au quotidien. Donc certains ont pu visiter tout à l'heure une de nos stations qui constitue notre réseau. L'évaluation du plan d'action, donc ça par exemple on accompagne la métropole sur le plan climat, air, énergie territoriale, ou les services de l'État sur ce qu'on appelle le plan de protection de l'atmosphère, ce genre de choses que portent les différents acteurs des territoires. Et dernier point aussi, c'est l'information du public. Donc c'est donner cette information au quotidien sur l'état de la qualité de l'air à travers différents indicateurs comme l'indice ATMO, peut-être que vous en avez entendu parler pour certains. Ça, c'est l'état de la qualité de l'air au quotidien et aussi tout ce qui est relatif aux épisodes de pollution. Donc ça c'est vraiment nos missions principales. Et puis on a complété à l'occasion justement de la fusion des deux anciennes régions, on a fait évoluer nos statuts. Et ça c'était un peu consécutif aussi au premier incident, pour ceux qui l'ont vécu chez Lubrizol, donc en 2013, donc un incident particulièrement haut de rang qui a débordé largement le territoire métropolitain, qui a touché d'autres pays, puisque ça a atteint le sud de l'Angleterre, la région parisienne aussi. Et donc on a intégré la possibilité pour nous d'intervenir et d'accompagner les acteurs qui sont vraiment les premiers primo intervenants sur ces sujets-là, dans des situations de gestion de crise ou de post-accidentelle. Et donc c'est de pouvoir les accompagner et apporter des moyens, mais dans la limite aussi de nos propres moyens, c'est-à-dire que on ne peut pas tout faire et on ne peut pas aussi intervenir partout. Donc il y a des questions aussi de sécurité, etc., qui fait qu'aujourd'hui, on a posé ce cadre-là d'emblée et qui est défini dans nos statuts. Donc, comment réalise-t-on notre surveillance de la qualité de l'air au quotidien au sein d'ATMO ? Donc il faut savoir déjà que ce travail un peu de surveillance se fait aussi dans le cadre d'un réseau national auxquels on contribue, dont on fait partie, qui sont les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Donc il en existe une par région administrative, vous avez à Normandie qui est là. Une des plus connues, c'est Air Paris, puisque c'est l'organisme de la capitale. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui donc 19 structures analogues à Normandie, et ce qui représente un réseau de plus de 500 personnes qui ont des métiers divers, à la fois techniques, administratifs, et qui ont des compétences qui leur sont propres sur tout ce qui est lié à la physique et la chimie de l'atmosphère, à la métrologie, etc., sur des outils de calcul que l'on utilise, donc des outils numériques. Donc voilà, ce sont vraiment un réseau assez poussé, assez pointu sur des aspects techniques. En termes de fonctionnement et de gouvernance, en fait, nous avons tous le même type de fonctionnement, c'est-à-dire que nous avons en fait un conseil d'administration, une assemblée générale, puisque nous avons un statut associatif, qui est réparti en 4 collèges. Donc, dans le premier collège, nous avons tous les services de l'État, préfecture, DREAL, ARS. Alors, on a une petite particularité chez Château-Normandie, c'est qu'on a aussi AROPA qui est dans ce collège-là. Voilà. Dans le collège 2, nous avons toutes les collectivités. Donc, on retrouve la métropole de Rouen, Caen-la-Mer, Cherbourg, etc. Départements, régions. Collège 3, ce sont au sens large, les sites industriels, voilà, qui concourent à l'émission de substances polluantes dans l'air. Et le collège 4, où on va retrouver, en fait, ce sont les associations de défense de l'environnement, les personnalités qualifiées, donc on va retrouver aussi des médecins, notamment, associations de défense de consommateurs. Donc, tout à l'heure, il y a aussi que choisir, voilà, on fait partie. Et donc, la particularité de notre fonctionnement, c'est que chaque collège a le même nombre de voix délibératives pour l'adoption, voilà, des plans d'action, programmes annuels, etc. Et dernier point, c'est que les 3 premiers collèges sont financeurs de la structure. Donc on s'attache, nous, à respecter le tripartisme financier. Mais comme je disais, en termes de décision, voilà, les collèges ont le même nombre de voix délibératives. Donc pour Atmo-Normandie, son fonctionnement s'articule vraiment autour de 3 valeurs principales. La première, c'est de pouvoir vraiment contribuer à l'intérêt général. Justement, on a tout ce côté, on va dire, expertise, voilà, vous avez vu à travers nous en interne ou à travers le réseau des ASCA, comme on dit entre nous. Mais il y a aussi tout le côté aussi médiation. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure à travers les odeurs, qui est un sujet sur lequel, voilà, on travaille depuis pas mal d'années. Donc vraiment, l'objectif pour nous, c'est de non seulement d'apporter de la donnée vraiment experte, mais aussi de pouvoir la rendre compréhensible et de pouvoir aussi faire en sorte que ce soit un outil de médiation, d'accompagnement, et qui serve vraiment l'intérêt général, l'intérêt de chacun. Et donc, pour servir cet intérêt général, la diffusion de nos données, de tout ce qu'on produit, est public. Voilà. Vous pouvez retrouver sur notre site internet tous ces éléments-là. Deuxième élément, c'est l'impartialité. Donc ça veut dire que voilà, on est vraiment au service de tous les acteurs du territoire qui participent au fonctionnement d'Atmo. On a aussi une démarche qualité. Je l'évoquais tout à l'heure, voilà, quand on a visité la station avec certains d'entre vous. Quand voilà, on surveille, on met en place, voilà, des appareils de mesure, ben on a toute une démarche qualité à travers la production de nos données. On s'assure qu'effectivement, ben, tout ce que vous avez retrouvé de manière publique sur notre site internet fait l'objet, voilà, de ce contrôle-là en interne, pour qu'on puisse derrière vous fournir une information de qualité et qui soit représentative et utilisable par tous. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce travail-là de démarche, on l'assoit par rapport à l'agrément que l'on peut avoir, que l'on a du ministère de l'Environnement, et le travail qu'on a en coopération avec, vous l'avez mentionné ici, le Laboratoire central sur la qualité de l'air, qui vient nous voir régulièrement, nous auditer, pour s'assurer que tout ce qu'on produit, voilà, s'intègre bien dans une démarche qualité qu'on a mis en place et que l'on trace et que l'on a mis en œuvre. Dernière valeur, donc, c'est développer l'expertise scientifique et la mettre à disposition. Donc là, c'est vraiment de développer de nouvelles approches, tant au niveau de la connaissance que de la mesure. Ça peut prendre vraiment différentes dimensions. Et tout ça, effectivement, pour améliorer, la couverture sur des nouveaux polluants, par exemple, qui peuvent faire l'objet de saisines au niveau national. Voilà, qui nécessite des recherches et de l'investigation au niveau local. Et donc ça, On a structuré cette activité-là depuis quelques années à travers notre laboratoire d'innovation qui s'appelle Incuber. Et donc, on a mis en place cette organisation, ce fonctionnement en interne qui est très transversal chez nous, qui va rechercher des compétences bien particulières pour pouvoir vraiment développer cette expertise scientifique. Au niveau de nos missions, donc là, j'ai parlé un peu en préambule de nos missions réglementaires, mais il y en a aussi qui sont non réglementaires, donc sur vraiment tout ce qui est l'amélioration des connaissances, de pouvoir nous intervenir auprès des différents publics. Là notamment, on a développé des parcours pédagogiques à destination des scolaires, etc. Donc ça, c'est des choses que l'on a pu développer parce que justement, on nous a donné la possibilité de pouvoir développer ces compétences-là, ces missions, et de pouvoir vraiment répondre à une demande qui nous était remontée de par nos membres, notamment les collectivités, mais ça pourrait être d'autres demandeurs. Donc voilà, on a vraiment cet aspect-là de pouvoir apporter de l'information, développer les connaissances à travers des programmes de recherche aussi, comme je l'ai évoqué, l'accompagnement des acteurs sur les plans et programmes dont ils ont la gestion, etc. Donc là, nous, on est vraiment là en support pour répondre à des besoins de nos partenaires. En termes de dispositifs de surveillance, donc on a vraiment trois sujets, principaux. Donc on l'a vu un peu tout à l'heure pour ceux qui ont pu visiter la station. On a nos moyens de mesure en temps réel de surveillance de la qualité de l'air. Donc c'est sur nos stations de mesure. Donc on en a une quarantaine à peu près réparties sur le territoire normand. Donc ça, c'est ce qui permet de mesurer la pollution de l'air en temps réel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a des systèmes de mesure complémentaires qu'on appelle soit des préleveurs ou qui vont mesurer les retombées atmosphériques, par exemple, donc ce qui nous permet de pouvoir documenter des observatoires. Par exemple, sur Rouen, on a un observatoire qui est sur la métropole, c'est plus large que la ville de Rouen, mais ce qu'on appelle l'observatoire des retombées atmosphériques. Donc ça veut dire que c'est un dispositif de surveillance de certains polluants que l'on va mettre en œuvre régulièrement pour pouvoir faire un suivi de l'impact de certaines activités industrielles sur le territoire. De l'autre côté, on va aussi développer des outils qui vont nous permettre de pouvoir recenser les impacts et les contributions des différentes activités humaines et naturelles qui sont présentes sur les territoires. Et donc ça, c'est avec des outils que l'on a, des méthodes et des outils qu'on a développés là depuis pas mal d'années, qui sont ce qu'on appelle nos inventaires des émissions. Alors, inventaire des émissions de polluants atmosphériques, de gaz à effet de serre, mais aussi de consommation d'énergie. Alors, pour faire très court, ce sont des méthodes de calcul qui vont nous permettre d'avoir beaucoup de données sur les émissions des différents secteurs d'activité. Donc ça va être l'industrie, la mobilité à travers le transport routier, portuaire, maritime, les activités agricoles, le chauffage des bâtiments, etc. Donc on va calculer on va recueillir pas mal de statistiques qui vont permettre ensuite derrière de calculer ces émissions, donc des différents polluants, particules, oxyde d'azote, gaz à effet de serre comme je l'évoquais. Et l'ensemble de ces données donc vont être utilisables à la fois pour alimenter des diagnostics, faire de la scénarisation autour de différents plans d'action que portent les partenaires, mais aussi ils vont nous servir à une autre chose, ils vont alimenter ce qu'on appelle des outils de modélisation, donc qui vont permettre de produire des données modélisées. Donc on obtient ce genre de cartographie, là c'est un exemple que vous avez là, et donc ces outils de modélisation vont nous servir à cartographier la pollution de l'air sur les territoires. Alors ça peut être au niveau régional, ça peut être au niveau local, j'ai un exemple sur la métropole tout à l'heure, et ces outils-là vont nous permettre aussi de pouvoir faire notre travail au quotidien. Alors c'est la prévision de la qualité de l'air. Alors on est plus modeste que Météo France, mais on va dire que le travail est un petit peu analogue, c'est-à-dire qu'on va regarder sur des échéances à court terme, donc pour le lendemain, le surlendemain, quelle va être l'évolution de la qualité de l'air sur les territoires, et ensuite on va par exemple avertir les services de l'État si jamais on pressent que la qualité de l'air se dégrade et qu'on est susceptible de dépasser des seuils d'information ou d'alerte sur certains polluants. Ça va permettre aussi de cartographier des indicateurs, par exemple d'exposition pollution de l'air que vous avez ici, et aussi de pouvoir réaliser des études. On l'a par exemple évoqué tout à l'heure, il y a eu la question de la ZFE. Voilà, on a accompagné la métropole sur quel est l'impact de la ZFE sur la qualité de l'air. Voilà, sans parti pris. Au niveau, donc ces données-là, comme je disais tout à l'heure, en fait, elles vont servir à informer le public, donc voilà, au niveau local, mais aussi ces données-là vont remonter à des échelons supérieurs, c'est-à-dire qu'on va remonter au niveau national, etc. Et donc, elles vont être utilisées notamment pour répondre à de la réglementation. Cette réglementation-là, elle va se décliner en fait suivant différents niveaux géographiques. On a un cadre international, comme vous avez ici, donc avec des recommandations qui sont notamment données par l'Organisation mondiale de la santé, qui va donner en fait un peu des sortes de lignes directrices, ou en tout cas des valeurs repères en deçà duquel, voilà, on sait que l'impact sanitaire sera pas nul, mais sera moins important. Et donc du coup, ce sont plutôt voilà, des lignes vers lesquelles devraient tendre les États, notamment pour pouvoir diminuer les impacts sanitaires. Ensuite, au niveau européen, on a notamment une directive qui existe et qui est sur la qualité de l'air et qui donne pour le coup là, des valeurs réglementaires, donc des seuils à ne pas dépasser par les États membres annuellement. Donc là, du coup, on regarde, nous, au niveau de nos stations de mesure, si on a des dépassements. À travers nos outils de modélisation numérique que j'évoquais tout à l'heure, voilà, s'il y a des dépassements aussi qui sont constatés ailleurs, et donc de regarder si on a des habitants sur les territoires qui sont concernés par ces dépassements. Et donc cette réglementation, on va dire, européenne est traduite dans le droit français et dans le droit de chacun des pays des États membres. Et on va retrouver ça, donc, du coup, notamment dans le cadre de la loi sur l'air, le code de l'environnement, etc. Et plus localement, on peut avoir cette réglementation qui va se retrouver ici dans les différents plans et programmes que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on retrouve par exemple le plan de protection de l'atmosphère, le schéma régional, le climat et l'énergie, etc. Donc voilà, donc il y a toute cette déclinaison-là, et le travail que nous, on produit, permet de contribuer, de voir un peu, suivant les différents niveaux réglementaires, où on se situe. Sur les territoires de la métropole plus à proprement parler, donc si on zoome sur le territoire, aujourd'hui, voilà, on a un réseau de surveillance que vous avez ici, donc composé de différentes stations, dont la typologie va dépendre en fait de ce que l'on recherche en termes de polluants, en termes de surveillance. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez exhaustif et homogène. Voilà, donc ce que vous avez ici au niveau des véhicules, ça veut dire que ce sont des stations qui sont plutôt dédiées à la surveillance de la pollution générée par le trafic automobile. Alors que là, ici, vous avez les petites maisons, c'est ce qu'on appelle, nous, des stations de pollution, de surveillance de la pollution de fond. Donc là, on va regarder un petit peu quel est l'état global de la pollution sur le territoire. Et ici, par exemple, vous avez le cas de la station qui est à Grand Couronne, qui a plutôt une vocation à surveiller la pollution d'origine industrielle. Là, vous avez un exemple de résultat de l'historique de la surveillance sur un polluant particulier qui est le dioxyde d'azote, donc un polluant plutôt marqueur du trafic automobile. Et donc là, vous voyez effectivement comment se situe l'état en fait, de la qualité de l'air au niveau de nos stations de mesure au cours de 10-12 dernières années par rapport à des valeurs de référence que j'évoquais tout à l'heure. Je parlais des recommandations de l'OMS. Voilà, l'OMS a émis une recommandation en 2021 qui est autour de 10 microgrammes, qui est à 10 microgrammes par mètre cube. Et donc ça permet de voir un peu comment se situent les résultats de nos stations de mesure sur le territoire de la métropole par rapport à cette recommandation. Idem en fait pour la valeur limite qui est donnée dans la directive européenne. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que cette directive européenne est rentrée dans un processus de révision. Donc il y a eu des valeurs proposées pour abaisser ces seuils et essayer de tendre à terme vers les recommandations de l'OMS. Aujourd'hui, on en est au stade en fait, de négociation entre le Parlement et la Commission européenne pour savoir vers courant de temps et comment, à quelle échéance, etc. Donc voilà, on en est aujourd'hui à ce stade-là. Et je l'évoquais tout à l'heure aussi, c'est que on a donc ces outils de manière complémentaire qui viennent voilà, en complément des stations de mesure qui vont être, elles, ponctuelles. Et donc, on va mixer un certain nombre de données qui vont nous permettre de pouvoir ensuite, derrière, cartographier la pollution de l'air sur le territoire et de voir s'il y a des zones à enjeu, des zones sensibles, et de pouvoir ensuite évaluer, à partir de ces cartes-là, si on a des habitants qui peuvent être potentiellement exposés à des dépassements soit de valeurs limites européennes, via la directive, ou à des recommandations de l'OMS, par exemple. Autre polluant qui était, il y a quelques années, un peu emblématique du territoire rennais, c'est le dioxyde de soufre, qui est là, pour le coup, un polluant vraiment plutôt marqueur de l'activité industrielle. Et donc, c'était un polluant que l'on suivait beaucoup et qui était vraiment d'actualité quand notamment la raffinerie Shell Petroplus était en activité à Petit-Couronne. Et on s'est aperçu que, voilà, au fur et à mesure, donc déjà des améliorations que pouvait apporter le site sur son activité, mais après à terme, donc avec la fermeture qui a eu lieu au début des années 2010, on s'est aperçu, voilà, que ce polluant-là devenait moins prégnant, en fait, sur le territoire. Donc vous pouvez voir un peu en l'espace, voilà, d'une quarantaine d'années des niveaux auxquels on est passé, sachant que là on était sur des concentrations qui étaient moyennes. Donc voilà, dans les années 70, on était sur des niveaux qui étaient beaucoup plus élevés.
Peut-être un petit commentaire là-dessus, c'est qu'en fait, il y a deux courbes. Vous voyez la courbe bleue qui est sur les concentrations de l'air qu'on respire, en fait, d'être les variateurs, et la courbe rouge, qui est en fait les tonnes par jour, qui étaient émises, en fait, de tonnes par jour, à l'époque et aujourd'hui sur les
On l'a évoqué tout à l'heure très rapidement avec la maire de Fezin qui était voilà, sur le sujet des odeurs. Alors pourquoi Atmo Normandie un peu s'est mis à travailler sur les odeurs? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sujet-là est inscrit dans la loi sur l'air. Donc, la loi que j'évoquais tout à l'heure, on évoque dedans les nuisances odorantes excessives. Alors la loi ne dit pas qu'est-ce qu'une nuisance odorante et en quoi elle peut être excessive. Mais néanmoins, voilà, de par notre contexte industriel, etc., c'est un sujet qui est apparu assez prégnant sur le territoire, hein, sur la métropole, mais aussi sur les zones de Port-Jérôme, Le Havre, etc. Et donc, ce qui fait qu'on a lancé cette activité-là il y a 25 ans, en fait, au moins, en interne, donc en partenariat avec différents acteurs. Et donc on a été amené notamment à donc, développer cette activité, à réfléchir sur quelle méthode, comment on pourrait travailler sur les odeurs. Donc il est apparu effectivement cette notion-là de méthode, un peu de d'apprentissage et de dialogue, je dirais. Parce que ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que discuter, établir un dialogue entre les acteurs, notamment entre les habitants et les industriels, sur la base des vocations, c'était un petit peu compliqué. Pour justement se comprendre, dialoguer, de savoir sur quoi agir, comment. Et donc c'est pour ça que nous, on a décidé effectivement de mettre en place une méthode. On travaillait avec des spécialistes du domaine donc, il y a quelques années. Et donc on est arrivé à une méthode qu'on a appelée le langage des nez, que vous avez ici, auquel sont formés maintenant pas mal d'habitants sur le territoire normand, et en particulier donc un des derniers groupes qui a été formé, c'est un groupe qui est sur la métropole de Rouen qui s'appelle Les Nécessaires. Donc ce sont vraiment des habitants bénévoles qui ont suivi une formation à la méthode, Et du coup, ça leur permet de pouvoir aussi nous apporter un retour terrain sur quelles sont les odeurs chroniques, en fait, que eux perçoivent via la méthode du langage inné. Et donc, à cela, on peut croiser ces informations un petit peu de terrain, puisqu'ils ont, ils viennent de terminer, là, c'était juste avant l'été, une veille olfactive qui a duré pendant un an. Donc, ils ont senti à intervalles réguliers, tous les jours, leur environnement. Et à cela, en fait, on croise aussi les travaux qui sont réalisés par des nés industriels qui sont aussi formés à la méthode et qui sont dans les entreprises et qui, eux, nous font de la remontée de leur activité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que derrière, ils vont aller cartographier les odeurs sur leur site d'activité en fonction de leur process. Il peut y avoir un ou plusieurs process à l'intérieur de leur site. Et donc, du coup, en croisant ce qu'on appelle, nous, du coup, ce qui ressort de ce travail-là, des profils olfactifs, on peut croiser cette information-là avec les relevés de terrain des nés habitants et de savoir un petit peu quel va être l'impact en termes de nuisance odorante, si on peut dire, de telle ou telle activité ou de tel ou tel site. Et donc d'engager un travail de fond avec les industriels pour réduire ces nuisances odorantes. Et c'est là où on intervient, c'est que en déployant un petit peu cette méthode-là sur la métropole et les autres territoires, ça nous permet nous aussi d'apporter quelque chose de plus au-delà de notre travail d'expert, c'est d'apporter cette instance, en tout cas ce travail de médiateur, pour justement qu'il y ait ce dialogue-là qui s'inscrive dans la durée entre les habitants et les industriels, et de voir dans quelle mesure les actions que mettent en place les industriels ont un impact sur la qualité de vie des habitants qui habitent à proximité de ces sites-là. Donc ça, on va dire que c'est un peu le travail de fond que l'on fait avec nos réseaux de nés normands. Et donc, quand on a potentiellement des épisodes qui arrivent liés à différentes raisons, dysfonctionnement chez un industriel, etc., tout le monde, pas forcément que les nés qui sont formés, peuvent aussi nous faire de la remontée d'informations via la plateforme qu'on a mis en place au moment de l'incendie de Lubrizol et Normandie Logistique. Donc à l'époque, il s'appelait Odo, maintenant qui a changé de nom, qui s'appelle Signalaire. Donc maintenant, n'importe quel habitant peut nous faire une remontée, nous faire un signalement de terrain. Et donc, dès l'instant où voilà, on commence à avoir de la remontée de terrain qui est assez importante, nous, ça nous permet de pouvoir enclencher des actions de notre côté. Par exemple, ce qui s'est fait il y a quelques temps, on avait reçu via la plateforme plusieurs dizaines de signalements, voilà, une quarantaine, qui provenaient vraiment de partout. Et donc, il y avait quand même un peu on va pas se cacher, un peu le traumatisme lié à l'incendie de Lubrizol. Donc forcément, ça, de suite, dès l'instant où on commence à sentir une odeur sur la métropole, ça engage voilà, un certain nombre de signalements via la plateforme. Et donc, en l'espace de 3 jours, on avait reçu cette quarantaine de signalements. Donc nous, qu'est-ce qu'on a décidé ? C'est qu'on avait ces évocations-là qui nous donnaient des informations sur les odeurs d'hydrocarbures, de gaz, etc. Donc là, on est vraiment sur l'approche évocation. Et nous, pour savoir, essayer de trouver la source de l'odeur en particulier, puisque face à cet afflux important de signalements, on est parti sur le terrain. Et donc, avec un nez formé à la méthode, on est parti faire des relevés odorants autour, qui remontaient un petit peu dans l'axe voilà, des signalements que l'on avait et qui nous a permis de pouvoir arriver autour de l'ancien site de Petroplus qui était à ce moment-là en cours de traitement par une société qui avait été mandatée. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a eu déterminé l'origine probable, on ne peut pas dire certaine, mais en tout cas probable des nuisances qui avaient été rapportées par la population, on a fait une remontée d'informations auprès de l'ADREAL. L'ADREAL s'est retourné vers la société qui était en charge de la dépollution et ils se sont aperçus qu'effectivement il y avait un souci. De mémoire, je ne sais plus, je crois que c'était une citerne qui avait été crevée pendant... phase de voilà, avec une pelle qui avait creusé, qui avait voilà, percé un récipient, en tout cas un contenant. Et donc du coup, bah, l'ADREAL a demandé à l'exploitant d'intervenir tout de suite pour résoudre le problème. Comme je l'évoquais tout à l'heure, donc là j'en ai presque terminé pour ma partie. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations-là. Alors là, par exemple, sur le dernier exemple que je vous ai donné, je crois que de mémoire, on a peut-être dû faire... Oui, on avait fait une note d'information sur cet événement. Donc sur ce genre de cas, voilà, d'exemple que je vous ai donné, vous pouvez retrouver des notes d'information expliquant un petit peu la problématique, toute la démarche qu'on a mis en place. Vous allez retrouver aussi toutes les données des stations de mesure en temps réel sur notre site internet, les rapports d'études, etc. Et quand vous arrivez notamment sur la première page, c'est là où vous avez l'information principale à travers ce que j'évoquais tout à l'heure, les 10 ADMO, qui donne à l'échelle communale l'information de l'état de la qualité de l'air sur l'ensemble des communes de la Normandie. Donc on a ce biais de cet outil de communication, voilà, qui est notre site internet pour préparer l'information. Et après, on est aussi amené à communiquer, bien sûr, sur les réseaux sociaux, voilà, pour des événements, des incidents qui peuvent avoir lieu. Voilà, donc c'est aussi, ça fait partie de notre panel d'outils de communication.
Peut-être que je peux finir, ouais, et juste ne va être pas très très long. On aime bien ce qu'on fait, donc on aime bien le présenter, et du coup ça prend du temps. Et donc sur la partie incident, justement, c'est peut-être, je ne sais pas si la question c'était sur la qualité de l'air de façon générale ou sur les incidents, mais en fait la réponse est même. Et donc du coup, nous, en fait, c'est assez récent finalement qu'on travaille là-dessus. On va dire que c'est un petit peu... en fait, c'est suite à Lubrizol 2013 qu'il y a eu en fait des textes qui ont dit que nous, à Square, on pouvait expérimenter un certain nombre de choses pour améliorer la documentation des incidents en matière de qualité de l'air. Et donc on a avancé et on a continué, puisque 2019, ça a aussi continué à durcir les demandes en fait auprès des industriels notamment pour avoir plus d'informations en cas d'incident. Vas-y, s'il te plaît. Et donc, en fait, nous, on fait une partie ATMO Normandie. Là, c'est l'exemple de ce qui a été fait pour Lubrizol, en fait. On est intervenu pour l'IRE 2019. On est intervenu sur une partie, en fait, des prélèvements qui ont été faits. Déjà, on a nos mesures, nos propres mesures existantes, celles que les réseaux, en fait, qu'a montré tout à l'heure Jérôme. En plus, on a ajouté, en fait, on est très vite intervenu pour ramener, en fait, du matériel, rajouter, en fait, des préleveurs et en fait des préleveurs autour du site, et finalement on est resté pendant un an parce que, ben, vous vous rappelez que le temps en fait que toutes les cuves en fait soient enlevées du chantier, ça a duré un an, et on est resté pour un certain nombre de mesures pendant un an autour du site. Sachant que d'autres intervenants, aussi des citoyens, avaient fait aussi d'autres prélèvements sur l'eau, notamment, enfin, l'eau, les végétaux, les surfaces au sol. Nous, on n'est pas intervenu du tout là-dessus. On est vraiment sur notre cœur de métier, qui sont les mesures dans l'air et un petit peu dans l'eau de pluie. Ce qu'on peut dire, en fait, par rapport à ça, bon, peut-être que je vais peut-être pas avant, ouais, vu qu'on a quand même pas mal de diapos. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle le programme CASPER, c'est l'île d'appui aux situations de pollution atmosphérique inhabituelle régionale. Et ça, c'est tous les outils en fait qu'on a développés pour mettre ça en place. On a d'abord maintenant des outils de modélisation, on viendra là-dessus, qui nous permettent de modéliser en fait un panache sous réserve qu'il y a suffisamment de vent pour le faire scientifiquement. De voir où, en fait, a priori, théoriquement, en fait, le panache a pu passer. des moyens de mesure avec des systèmes là, de canistères, par exemple, qui permettent de prélever des échantillons d'air. Ça, ça a marché pour Lubrizol 2019. On avait ça, puisqu'on avait développé dans le cadre de Lubrizol 2013. On avait des bonbonnes et on a pu faire des prélèvements. Les pompiers ont fait des prélèvements avec nos canistères. On a eu des échantillons d'air très vite, en fait. Et d'ailleurs, l'INERIS avait, dans le cadre des auditions qui ont eu lieu après, elle a expliqué que c'est la première fois qu'on avait réussi à avoir des échantillons comme ça d'air aussi rapidement, en fait, au niveau de l'incendie. Triple astreinte, donc on a une astreinte direction, astreinte prévisionniste pour les phénomènes de pollution de l'air et astreinte technique pour récupérer les échantillons, notamment. Signalement d'odeur, bon, ça c'est vraiment le système signalaire qui fonctionne très bien à Rouen, pas forcément sur les autres sites, mais c'est vraiment très important, comme l'a montré Jérôme. C'est tout de suite, ça nous met en alerte qu'il se passe quelque chose, en fait, et quand c'est pas assez, c'est vraiment très utile. On donc participe à des exercices de crise, on a la recherche, en fait. Par exemple, aujourd'hui, il y a des recherches sur les drones, l'utilisation des drones pour aller faire des prélèvements, parce que pour ne pas s'exposer à la pollution. Donc c'est... Et notamment pour aller faire des prélèvements dans les panaches, parce que souvent les panaches, eh ben, ils sont en hauteur. Et donc, du coup, si vous voulez savoir, il faut avoir des systèmes de... Donc les pompiers ont déjà des drones pour faire des notamment un certain nombre de choses, mais pas forcément des prélèvements aujourd'hui d'air. Donc c'est ça qu'on essaye de développer. On n'est pas les seuls, hein, mais donc ça c'est, enfin, je pense que ça sera vraiment très intéressant. Aujourd'hui on a des prélèvements, bah, comme par exemple à la source de Lubrizol, on a vu ça. Et ça c'est très important parce que ça permet de savoir ce qu'il faut rechercher dans l'environnement. C'est-à-dire que c'est plus concentré et puis. Et donc, du coup, où j'en étais, communication de crise, gestion de crise, donc on s'est formé sur le tas, mais aussi on a fait des formations pour s'organiser. On a aussi des conventions, des conventionnements. En fait, en 2017, on a fourni justement des canistères aux pompiers suite à l'Horizon 2013 pour qu'ils puissent faire des prélèvements. Parce que eux-mêmes, en fait, je ne sais pas s'ils sont venus vous voir, mais ils ont des systèmes de détection pour mesurer des choses, et notamment par des seuils de détection qui sont en général plus élevés que ce que nous on mesure, enfin complètement d'ailleurs, parce que c'est vraiment savoir s'il faut confiner ou pas, alors que nous, les mesures qu'on fait sont à des seuils de détection plus bas qui correspondent à les seuils de l'OMS ou ce genre de choses. Et comme ils ne mesurent pas forcément tout, c'était intéressant d'avoir en fait des prélèvements d'air, d'où ces fameux canistères qui nous permettent d'avoir des échantillons d'air qu'on analyse après coup. Donc premier conventionnement en France, c'était en 2017 avec le SDIS-76. Et puis depuis, en fait, ce système-là, il s'est développé ailleurs. Et puis on a aussi des conventionnements avec les industriels qu'on avait justement à l'époque pour pouvoir leur mettre à disposition des canistères, faire des prélèvements rapides aussi. Et puis ces conventions, on est en train, depuis 2019, d'avoir des nouvelles conventions avec les industriels pour avoir plus de matériel à leur disposition et aussi à disposition des pompiers qui peuvent venir se servir sur les sites industriels qui sont, pour certains sites industriels, ils peuvent récupérer du matériel pour faire des prélèvements. Donc ça, on est en train de continuer à travailler là-dessus et à former en fait tous ces acteurs-là à faire des prélèvements, puisque nous, on n'est pas sur le terrain au premier moment de la crise. D'abord, on n'est que 40, donc on n'a pas des EPI, vous savez, des matériels de protection qui nous permettraient d'aller en fait dans ces endroits-là. On peut pas faire ça. Donc les pompiers, ils sont 1000 sur la Seine-Maritime, on est 40, donc ils sont les équipements qu'il faut. C'est tout l'intérêt en fait de travailler en partenariat. Et donc il faut quand même les former à l'utilisation du matériel qu'on leur met à disposition. Voilà en gros les dispositifs. Je crois qu'il y avait quelques... Vous m'avez demandé, je sais pas si j'ai le temps ou pas, c'est de présenter ce qu'on a fait. Par exemple, c'était l'exemple de Grand Couronne, de l'entrepôt de Grand Couronne, pour vous dire comment ça se passe en fait concrètement. Là c'était assez proche dans la mémoire. Donc comment ça s'est passé pour nous, parce qu'on est un petit peu, voilà, on a développé des choses, mais on n'est pas forcément toujours, toujours là. Et donc, qu'est-ce qui nous a alerté, nous, le SMS de la métropole, c'est comme ça qu'on l'a appris, qu'il y avait cet incendie-là. Ensuite, il y a l'Adréal qui nous a appelé, qui nous a dit, bon, il y a un incendie qui va durer un certain temps, parce que... Il le savait qu'il y avait des batteries, ça serait compliqué à éteindre. Donc là, on a organisé une cellule interne et on a mis une première actualité sur notre site internet. Après, en fait, les pompiers nous ont demandé des canisters complémentaires pour faire d'autres prélèvements, donc on en a fourni, et puis avec d'autres matériels complémentaires. Ensuite, en fait, il y a Loki Concept qui est un prestataire qui nous a appelé parce que Bolloré leur demandait de faire des prélèvements en plus, donc ils ne savaient pas trop comment faire, donc ils nous ont appelé. Donc nous, on est intervenu avec eux pour faire d'autres prélèvements sur le Grand Couronne ce jour-là. Bon, ça, c'était un peu hors. Ça ne s'est pas organisé, ça s'est passé comme ça sur le moment. On était à minuit en train de faire des prélèvements Grand Couronne. Donc nous, on a continué à faire des prélèvements, vas-y. Et puis, dans le début de soirée, on a analysé aussi ce qu'on mesurait nous déjà sur Grand Couronne, parce qu'on a une station en Grand Couronne, et puis les vents étaient passés dessus, puis on a vu, je vous montrerai les coupes après, un pic de particules passer, on a vu vraiment le panache passer sur la station de Grand Couronne, donc c'est ça qu'on regarde aussi. C'est-à-dire qu'on va regarder tout ce qu'on a déjà comme élément, ça peut passer dessus et ce qu'on a vu. Donc on a fait une information sur Internet à ce moment-là. Donc on est intervenu pour faire des prélèvements sur Grand Couronne, où j'étais vas-y. Donc il y a eu le troisième entrepôt, je crois qu'il s'est. Et le matin, en fait, le lendemain matin, on a fait tourner notre système de modélisation pour voir en fait où le panache avait dû passer. Et on l'a publié en fait sur Internet. Tu l'avais mis en lien.
Oui.
Là, ici, c'est Grand Couronne, et là, c'est le panache. En fait, bon, c'est pas grave si tu n'y arrives pas. Et en fait, on a bien vu en fait qu'il avait fait un cercle, on va dire. C'est pas trop grave, en fait.
Si, je l'ai là.
Ah, tu l'as
faut que j'arrive à le mettre sur le bon écran, c'est tout.
D'accord. Alors ça, c'est des outils qui sont un peu nouveaux pour nous. Enfin, un peu nouveaux. Et en fait, l'idée, c'est de... Pour nous, au départ, c'est vraiment pas de savoir s'il faut... mettre en sécurité les populations. Ça, c'est vraiment le rôle du SDIS, etc. Pour nous, c'est vraiment savoir où est-ce qu'il faut faire des prélèvements. Et dès lors, en fait, on a fait des prélèvements. Quelle est la représentativité de ces prélèvements par rapport à l'événement? Est-ce qu'on était dans le panache ou pas? Parce que c'est pas toujours évident. Et c'est vraiment aussi l'intérêt. Donc voilà, ça c'est la modélisation qu'on a faite. Donc ça intègre. Donc on part en fait de là où l'incendie s'est déclaré. Et en fait, avec la météo, ça nous permet de retracer. Ouais, ça fait un 360 complètement.
Donc vous l'avez suivi à différents endroits.
Et donc du coup, nous en fait, ça on l'a fait le lendemain pour analyser en fait déjà par rapport à ce qu'on avait fait. D'abord, ça a montré. On a vu que quand se passait sur le capteur de Grand Couronne, ce qu'on mesurait, c'était bien sur le grand panache déjà pour commencer. Et ça permet en fait de. C'est une preuve que c'était ça, même si on n'avait pas forcément besoin de preuves, mais c'était ça. Et donc ça, en fait, on l'a mis sur notre site internet, et alors ça a beaucoup marché. Sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup marché. Et la presse aussi l'a beaucoup utilisé. Et au même moment, je sais que le préfet expliquait en conférence de presse que c'était compliqué de savoir où c'était passé, parce que... et le même jour même, en fait, c'est pareil que on a fait la même chose pour Lubrizol, on a été installer des petits dispositifs de mesure du benzène, enfin d'autres de polluants qui permettent de voir en fait la combustion si elle devait continuer autour du site. Et là aussi on a décidé, si le panache il est passé, on a des systèmes de filtres en fait qu'on analyse pour les métaux par exemple, donc il y a du lithium, il y avait du lithium, donc on va regarder ce que ça va donner, je vous montrerai les résultats. Donc on avait un filtre, je pense que c'était sur Sotteville, il est passé là. Donc on a analysé tous nos filtres métaux, on en a 3-4 sur la région. On a aussi décidé d'analyser en fait ce qui est retombé dans les retombées, dans les jauges. Je ne sais pas les résultats, mais c'est pareil, on a mesuré aussi des choses. Voilà, on réfléchit à finalement un réseau, qu'est-ce qu'on peut faire en plus enfin. Et on a beaucoup de... Et donc voilà, l'après-midi du lendemain, on a été appelé pour participer par la préfecture à une cellule post-accidentelle. Donc c'est en fait, ils réunissent des personnes qui doivent réfléchir aux mesures, interprétation des mesures, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'il faut en rajouter, enfin voilà, c'était un petit peu l'idée qui a conduit en fait à... ils ont mis en ligne un rapport en fait avec tous les résultats, je ne sais pas si vous avez vu sur le site de la préfecture, tous les résultats de toutes les études qui ont été faites dans tous les milieux, en tout cas ont été mis rassemblés dans un rapport qui est téléchargeable sur le site de la préfecture. Bon, voilà. Après, on a l'INERIS a fait des prélèvements de poussière sur la base de nos modélisations. Ils ont été faire des prélèvements de retombées de poussière sur différents sites. Et puis, alors, le 19, c'est vrai qu'on a, moi j'ai essayé de rappeler, en fait, enfin, on a renvoyé à Santé publique France les éléments qu'on avait, parce que sur signalaire, en fait, les habitants peuvent signaler des odeurs ou des panaches ou autre chose. Ils peuvent aussi signaler, en fait, des impacts de santé qu'ils sentiraient. Donc sur leur propre santé, bon, c'est du déclaratif, hein, c'est, et du coup on a, ben, les a fournis à Santé publique France à ce moment-là, et puis voilà, après bon, ça continue, c'était pas, on n'a pas fini, mais bon, c'était les deux jours, hein. Et ça c'est les résultats de la mesure en fait sur Concouronne. En fait on a très bien vu, ça c'est nos capteurs de poussière sur l'agglo, donc et donc ici, on voit sur la courbe verte, ici, la verte, c'est pause. Ah oui, c'est pause, ça a commencé en fait sur la station de pause. La station, donc vous voyez, vous avez vu le panache qui passait comme ça. Après, c'est arrivé, hop, c'est remonté sur Grand Couronne. Plus fort, parce que c'était plus près, et voilà. Après, on l'a vu sur RPV, c'est quoi RPV ?
Rond-Point des Vaches.
Saint-Étienne-du-Rouvray, ouais. Rond-Point des Vaches. Après, il y a eu, voilà, après c'était sur CHS, donc à l'hôpital de cette ville. Bon, voilà, on a toute la chronologie, on a bien vu passer. Alors, le seuil d'information des personnes pour ce polluant-là, hein, c'est 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière. Donc c'est là, donc on a eu un pic au-dessus, mais globalement sur la journée, on n'a pas dépassé. Pour les particules, ça ne veut pas dire que c'était bon à respirer, hein. C'est-à-dire que pour ce polluant-là, on l'a bien vu passer. Et voilà. Et dernière courbe, ça c'est les mesures de lithium particulière. Donc on a mesuré, donc c'est là que je vous disais, on s'était bah tiens, on a des filtres, on va les analyser, on voit ce que ça donne sur le lithium. On ne fait jamais d'habitude parce qu'on n'est pas supposé en avoir dans l'air. Et du coup on a mesuré, comme on n'avait pas envoyé les filtres encore de la semaine d'avant, ou de la période d'avant, c'est pas la, on a envoyé la période d'avant, cette période-là, les deux périodes suivantes, sur Sotteville-lès-Rouen, Port-Jérôme-sur-Seine et Gonfreville-Lorcher. Et voilà ce qu'on a mesuré. C'est-à-dire, en fait, ce sont du lithium, alors c'est du nanogramme par mètre cube, hein. C'est pas des grosses concentrations, mais on voit très bien, en fait, que sur la semaine, parce que ça c'est une semaine, du 16 au 22, c'est pas une semaine. Si c'est une semaine, ça fait combien de jours, ça fait une semaine. Sur la semaine, en fait, de l'incendie, avec un passage qui était relativement quand même court, hein, on a eu ces concentrations de on a vu, c'est ce qu'on a vu, on l'a vu aussi mesurer dans le lithium. Après, en termes de santé, je ne peux pas trop vous dire ce quel impact ça peut avoir dans la mesure où il n'y a pas de normes sur le lithium et que je pense qu'il n'y a pas souvent, enfin voilà, d'expérience là-dessus. Mais tout ça pour dire en fait qu'on peut, on arrive, on essaie à chaque fois d'essayer de documenter les choses, et puis en tout cas, là, sans pouvoir conclure sur la santé. Et en termes de santé, en fait, nous, la seule chose qu'on a là, c'est les signalements des habitants. On a eu 27 signalements qui ont signalé des gènes odorantes et sur une partie d'entre eux, ont signalé en fait des symptômes santé. C'est 67% associés avec tout, enfin voilà, un picotement, irritation. Donc ça, on l'a donné à Santé publique France et qui ont questionné aussi le centre antipoison, mais en fait. Pour le centre antipoison, c'est pas assez précis pour que ça puisse leur permettre en fait d'aller plus loin dans l'analyse. Bon, voilà le type d'informations qu'on a et qu'on nous fournit en fait aux autorités pour, et aussi qu'on a aussi dans le cadre d'une actualité mis à jour sur notre site internet pour répondre à vos questions. On avait informé en fait sur, au fur et à mesure en fait de l'événement, je ne sais plus si c'était sur l'actualité ou sur un communiqué de presse, mais c'était l'un des deux. Merci de votre attention. Comme vous avez une demande spéciale sur le
reste. Très bien, non mais c'était parfait, ça répondait tout à fait à la commande, entre guillemets, de ce que je vous avais demandé, le quelques focus qu'on souhaitait faire. Pourquoi je l'avais demandé? Parce qu'en fait, je trouvais que c'était quand on en a discuté ensemble, quand on a préparé un peu cette réunion. Je trouvais que c'est pas assez connu, mais en fait, vous mesurez tellement de choses partout, tout le temps. Partout, c'est une manière de parler, mais en tout cas, vous voyez, on a un maillage de suivi. Et dans les échanges qu'on a déjà pu avoir dans les réunions précédentes, notamment au travers de quelles sont les études de suivi sanitaire et environnemental qui pourraient être lancées, qui pourraient être faites, etc., finalement, on se rend compte qu'il y a des données qui existent, qui sont, si j'ai bien compris, toutes publiées et consultables sur votre site internet. Et donc, là, une des questions qu'il faudra qu'on arbitre dans nos fameuses sessions de travail, c'est... c'est éviter le millefeuille, c'est éviter de réinventer l'eau chaude, c'est toutes ces questions-là de sur quoi on s'appuie, à quel moment on s'y appuie, quel est le rôle de l'instance de dialogue ou de travail avec qui on y travaille, sur la base de tout ce qui existe déjà. Donc c'est pour ça que j'avais demandé cette intervention-là, je vous remercie vraiment pour ce que vous avez présenté ici. Je trouve que c'est assez significatif de se dire, c'est pas la peine de partir tout de suite bien en tête sur il faut absolument qu'on crée une nouvelle instance qui va porter plein d'études. Il faut qu'on mette l'institut éco-citoyen avec X moyens qui va mesurer 50 000 choses supplémentaires. Peut-être qu'on a des choses, et ça fait aussi l'écho, vous n'en avez pas parlé, je crois pas, mais avec le projet Copperl que l'Université de Rouen était venue nous présenter aussi, où eux-mêmes mesuraient énormément de choses. Donc on voit qu'on est quand même très doté sur notre territoire d'acteurs compétents, des outils, des méthodologies. Et donc, je voulais alimenter ça aussi pour que quand on va travailler, on va se poser sur qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place, qu'on ait bien tout ça en tête pour, encore une fois, pas réinventer le chaud. Je crois que c'est un point important.
C'est vrai qu'on fait des choses. Et des fois, la limite, effectivement, c'est que c'est pareil pour les pesticides, c'est qu'en fait, il n'y en a pas forcément de valeurs toxicologiques de référence. On n'a pas des valeurs, en fait, qui nous permettent de dire... permettre aux acteurs de savoir est-ce que c'est acceptable ou pas. Et effectivement, c'est souvent ça. Par exemple, il parlait des mesures de dépôt, on fait des mesures de retombées atmosphériques sur l'agglomération autour de l'usine d'incinération, de l'usine Triadis qui est un incinérateur industriel aussi sur le même secteur. Donc on fait ces mesures depuis très longtemps. Après, dioxyfurane, métaux, là on a lancé des HAP aussi sur les lichens. Après, en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on compare avec le passé, qu'est-ce qu'on a mesuré dans le passé, qu'est-ce qu'on a mesuré ailleurs, etc. Donc ça permet d'avoir des repères, de voir s'il y a des choses qui sortent des valeurs classiques. Après, est-ce que c'est acceptable ou pas? En fait, on manque cruellement en fait d'études toxicologiques et l'ANSES, en fait, moi j'essaye en ce moment par exemple, c'est un de mes combats, de faire en sorte que justement l'ANSES sorte en fait des valeurs de gestion pour les retombées atmosphériques, qu'on sache en fait est-ce que finalement il faut qu'il y ait une action qui se mette en place parce qu'on a telle valeur sur tel secteur, parce que pour pas mal de polluants, c'est pas forcément. Pas ces informations. Donc il y a des normes, hein, comme tu l'as montré, il y a des normes. Là, on sait quand on est passé la leur limite, on est passé la leur limite, c'est assez pratique pour nous. L'OMS, il y a des valeurs guides de l'OMS, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses pour lesquelles, notamment dès lors, en fait, qu'on est un accident industriel, c'est pas des polluants chroniques, donc il n'y a pas forcément ça. Je pense que les pompiers, ils sont assez, soumis, enfin, régulièrement, ils ont la problématique de l'amiante, en fait, dans leurs interventions, mais vraiment au niveau des sinistres. Après, nous, sur la qualité de l'air, c'est vrai que nous, on ne mesure pas l'amiante, alors ça fait partie des sujets qu'on a revus, là, avec évidemment verre et acier, parce que les mesures d'amiante, en fait, il faut avoir... un agrément COFRAC particulier, enfin voilà, c'est ça aussi, et qu'effectivement c'est plutôt des problématiques plutôt de réhabilitation d'habitation et pas trop d'air ambiant normalement. Encore que je sais qu'il y a eu pu y avoir pas mal d'amiante dans les freins, enfin ça a dû être un sujet quand même malgré tout. Mais en fait là, effectivement, c'est encore pour nous, en tout cas Atmo Normandie, c'est un vrai sujet. On les avait listés comme un des sujets à regarder. Parce que en fait, rien que déjà aujourd'hui, ce qu'on a fait depuis les Brizol 2019, on avait donc en 2013 en fait. La réglementation a demandé à ce que les industriels et nous, en fait, aussi, on réfléchisse de notre côté à comment faire des mesures de composés odorants, parce que c'était le problème des odeurs. Et donc, moi, à l'époque, je me rappelle, on avait dit, mais attention, on a regardé sur les bases de données, en fait, c'est souvent des incendies. Donc, c'est plutôt ça qu'il faudrait commencer à regarder, mais c'était pas le sujet. Donc, on a travaillé sur les canistères, et puis après 2019, on a dit, ben là, il faudra réfléchir à comment mesurer d'autres composés liés aux incendies. Donc, en fait, on a rajouté des choses. Et c'est vrai que l'amiante ne fait pas partie en fait, de ça pour l'instant, mais c'est un sujet, on voit bien qu'il faudrait qu'on arrive à avoir des systèmes.
Là, surtout par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, j'avais des retours. Hein.
J'habite juste à côté.
Ça a été fait après. Mais pas nous, on n'a pas du lard. Pour le coup, on n'est pas du tout intervenu sur l'amiante, on a fait juste des mesures de particules autour. Mais pas sur l'amiante. On a aussi mis des mesures de benzène, comme on a fait pour les combustions. En fait, il n'y avait rien sur le benzène. Et sur la partie particules, à la demande de la mairie, on s'est installé au niveau de l'école. Et en fait, on a surtout vu l'effet de la brumisation. L'effet de la brumisation, parce que ça faisait aussi des gouttes d'eau, il y avait pour éviter que l'amiante en fait, s'envole. Mais on n'est pas équipé pour l'amiante. Pas nous qui l'avons fait, c'est un bureau d'études, je crois que c'est Veritas, je ne suis pas sûre, qui a fait des mesures d'amiante.
Et aussi dans mon article tout à l'heure par rapport à l'OMS et sur les différents polluants, l'OMS était à 10 et au niveau français on est à 40.
Oui, européen.
On a 30 la différence. Ouais. Enfin, voilà, après, je ne sais pas si c'est des nanogrammes ou microgrammes, mais quand on prend, on est.
Donc, je redis par rapport à l'OMS, par rapport au graphique, on est de 10 à 40, donc 30 de différence. Je trouve ça énorme. Et c'est-à-dire, on dit on n'a pas de normes, alors que l'OMS en dit. Mais on dit oui, mais l'OMS, et sur votre dernier graphique, j'ai retenu ce que vous avez dit aussi, c'est pas assez pointu. Donc, on ne le retient pas sur votre dernier graphique, où on avait à la fois les senteurs, on avait, sur le dernier graphique que vous avez passé, vous avez dit, on n'est pas assez précis, donc ce n'est pas retenu.
Ah non, moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit, sur le dernier graphique, j'ai dit que c'est le centre antipoison qui trouvait que ce n'était pas assez précis. Mais moi, je trouve ça assez précis, personnellement. Et donc, c'est pour ça, en fait, que l'information, on la donne, et, parce qu'on considère, en fait, qu'il y avait un impact... En tout cas, il y avait des gens qui ont ressenti des symptômes et nous, on le décrit. Après, par rapport à la norme, en fait, c'est ce que disait Jérôme, il y a la valeur guide de l'OMS est entrée en compte dans les négociations sur la nouvelle directive européenne. Et ce qu'on a. Alors, je ne sais plus quelle sera la valeur finale. 20. Alors voilà, apparemment, dans la directive européenne qui va sortir, dans quelques temps. Ça sera 20 microgrammes par mètre cube, la future valeur limite pour le dioxyde d'azote. Alors c'est comme ça que ça marche, en fait, ça diminue de temps en temps, il y a une révision de la directive et les concentrations en général diminuent.
Oui, c'est par rapport
au PPM aussi. Oui, tout aussi c'est pareil, il va y avoir ils ont introduit des nouvelles, enfin à chaque fois il y a des nouvelles choses qui sont introduites quand même. Non, je disais qu'il y a quand même des polluants pour lesquels il y a des valeurs de référence, heureusement, parce que.
Dans votre diagramme sur l'azote tout à l'heure, en 2020, vous aviez les mêmes valeurs qu'en 2022. Du coup, comment vous expliquez ça avec le confinement ?
Alors là, c'était le diagramme sur le dioxyde de soufre. Ça, c'était.
Celui d'avant.
Ah, remets-le pour voir. Parce qu'en fait, on a mesuré vraiment l'impact du confinement. Je veux dire, là, c'est pas zoomé parce que c'est sur des valeurs annuelles, mais alors c'était le confinement, c'était quelle année déjà? 2020. Bah, vous voyez en fait là sur les, vous voyez, alors franchement, si on avait pris la courbe journalière, c'est impressionnant en fait, les jours de confinement quand on pouvait pas sortir, on voyait très bien. Mais là, on voit quand même en 2020. Ici, par exemple, sur la station, c'est la station de Quai de Paris, dans Sud 3, on dépassait donc le 40 en 2019, on dépassait plus en 2020 et on le redépassait en 2021. Donc cette, parce que là, c'est une moyenne annuelle. Hein, c'est une moyenne annuelle.
Moi, je disais, c'était entre 2020 et 2022, vous avez à peu près la même valeur.
Alors en 2020 et 2022, et donc on a rebaissé parce qu'en fait, les concentrations, vous voyez, la tendance générale, elle est quand même à la baisse. Hein. Ça, c'est les normes le fait qu'il y ait des normes en fait, qui sur les véhicules et qui, au fur et à mesure que les gens achètent des voitures, ben, ça fait baisser les émissions. Donc ça, on le voit aussi, ça fait partie en fait, de l'explication. C'est très clair. Là, on le voyait un peu. Et c'est... Parce que là, on a rajouté les stations. Ce qui se passe entre là et là, ça, c'est pour ça qu'on a mis des flèches bleues. C'est que là, en fait, on avait une station qui était à Rouen-Guillaume-le-Conquérant, sur le square, mais c'est... maintenant, il y a une route à la place. Donc, on a dû déplacer la station. Et en fait, on l'a mis à Sud 3, à la place. Et là, les concentrations étaient plus fortes qu'en proximité du trafic. C'est très dépendant, en fait, du lieu où vous mettez la station, les concentrations. Et donc, on est reparti là, c'est à plus de 50, et après on a mis Quai de Paris, ici, qui est là. On pensait que c'était. Je ne sais pas si vous avez vu la station, elle se voit bien aussi, Quai de Paris. Elle est là. Donc on était. Voilà. Et là, aujourd'hui, on respecte, en fait, aujourd'hui, à ce stade, on respecte les valeurs limites européennes pour le NO2 sur ces deux stations, depuis l'année dernière. Et, mais dans quelques temps, on ne les respectera plus, quand les valeurs auront baissé. Alors, il y a 6 stations, et ça, les autres, c'est des stations qui sont des stations de fond, donc qui sont plutôt en milieu urbain, comme Rouen Centre, c'est vraiment celle que vous avez visitée, là. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant, on voit quand même aussi, malgré tout, sur le vous voyez, une baisse, en fait, du NO2 qui est liée au fait que, s'il y a moins de NO2 dans les... s'il y a moins de circulation, moins de... sauf que les normes, en fait... que les véhicules sont moins polluants, ben ça se retrouve. C'était pareil que le SO2, ça se retrouve dans les concentrations. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Juste parce que là, je pense qu'on va conclure là-dessus.